Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous écoutez notre podcast. Comme la moitié de l'humanité, maintenant, je suis confiné chez moi. Je passe pas mal de temps sur Internet et je sais pas vous, mais je trouve que cette période est propice à la réflexion et aux initiatives, notamment sur le numérique. Tout à l'heure, on va parler de la plateforme Solidarité Covid-19, lancée le 31 mars par l'Organisation internationale de la francophonie. Son objectif, aider les talents numériques de l'espace francophone à se fédérer et créer des solutions innovantes face au coronavirus. Mais tout de suite, je vais appeler quelqu'un qui s'est mis à gamberger au sujet de l'information en cette période de crise.
L'Atelier des médias.
Bonjour Denis Verloès.
Salut Steven.
Vous êtes chef de projet multimédia chez TV5 Monde et votre démarche pendant votre confinement m'a intéressé. En fait, vous avez décidé d'utiliser votre confinement intelligemment avec vos compétences et vos appétences. En fait, le 18 mars, sur la plateforme Medium, vous avez publié un billet qui s'intitulait « Urgent, créons un fil média citoyen sans fake news autour du coronavirus, le SARS-CoV-2 qui crée la maladie ». Donc le Covid-19 dont on parle énormément ces dernières semaines. Et vous partiez de deux constats. Quels étaient-ils ?
Oui, moi je suis parti d'un constat simple, c'est que j'étais comme tout le monde confiné. Et j'ai entendu le président de la République le 17 nous parler de confinement, de distanciation sociale, de le tout d'un air martial et très engagé. Et quand j'ai eu regardé cette intervention, je me suis rendu compte que du côté de mes potes, du côté des amis, du côté de la famille, on parlait encore d'aller boire des coups dans des cafés avant le confinement. Enfin, personne n'avait l'air vraiment très inquiet d'une situation que moi, en tant que partie prenante dans un média, je voyais alarmante du côté de l'Italie notamment, où les chiffres étaient affreux et horribles. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de rater, nous, médias, pour que les gens ne nous entendent pas encore quand on dit que c'est dangereux et qu'il faut rester chez soi. Quand le président le dit, personne ne le comprend. Donc ouais, ça m'inquiétait. Ça, c'était le premier constat qui m'a fait me dire il faut qu'on fasse quelque chose en tant que média. Les gens ne se confinent pas. Et le deuxième, c'est les médias ont sans doute raté leur cible si on n'arrive pas à faire passer le message.
Et alors justement, en parlant de ces médias, vous vous êtes dit qu'on était face à une abondance d'informations. C'est vrai qu'il y a des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'articles sur le coronavirus qui sont publiés tous les jours et qu'il y a en même temps un écosystème des médias qui est menacé et avec certains médias qui continuent à avoir un paywall, donc des articles payants autour de ces questions-là du coronavirus.
Ouais, mais c'est parti de questionnements très simples en fait, qui étaient de me dire tiens, à propos, t'as ton voisin qui te demande, il dit mais au fond ça dure combien de temps sur une surface en plastique le corona, et tu sais pas, et donc tu cherches dans Google. Et après c'est ta fille qui te dit mais le chat on peut encore le caresser parce qu'il va dehors, et tu cherches sur Google, et en fait tu te rends compte que l'ensemble des informations sont retrouvables mais sont soit soumise au moteur de recherche Google, donc tu es obligé de passer par là parce que tu trouves rien de très spécifique dans chaque média avec toutes ces thématiques-là traitées, parce que je pense que d'ailleurs tous les médias ne peuvent pas imaginer toutes les questions que les gens peuvent se poser, mais en tout cas tous les médias y répondent, au moins chacun en partie, et je me suis rendu compte que aucun média n'était complet sur le sujet par définition, et que chaque fois pour avoir cette information-là, soit je passais par un moteur de recherche, soit je passais par des groupes Facebook, soit je passais par du WhatsApp d'amis, et que en fait je ne devais pas être le seul. Si moi qui travaille dans un média j'avais ces démarches-là, je me dis le grand public, eux, on a encore de la chance s'ils vont sur Google, s'ils ne s'informent pas uniquement sur WhatsApp. Et partant de là, je me suis dit est-ce que c'est pas simplement parce que soit l'information est éclatée entre les différents médias, soit simplement pour certains médias sur lesquels on va. Quand on clique sur une information, j'ai quelques exemples dont je dois avoir gardé des captures d'écran, mais j'en avais une, je crois que c'était sur Libération, où il était écrit les masques en tissu sont-ils efficaces ? Et tu cliques sur le lien, tu as les 3-4 premières lignes, et après, tu vois, pour un média, c'est pas gratuit, abonne-toi pour, pas très cher, certes, pour continuer à avoir cette information-là. Et là, je me suis dit, il y a un paradoxe, il y a une urgence sanitaire majeure. Il y a un combat qu'on est tous collectivement en train de mener contre de la désinformation qui prolifère à une vitesse grand V et le fait qu'il faut informer les gens le mieux possible. Et ce genre d'information-là reste quand même planqué derrière les paywalls. Donc ça m'a vraiment rendu dingue. Le côté éclaté, bon, ben ça, c'est inhérent à la multiplicité des médias et c'est très bien. Mais le côté paywall, ça te tue, mais peut-être au sens littéral.
Alors vous êtes chef de projet multimédia et notamment vous intéressez aux applications. Et là, vous êtes dit, mais en fait, il faudrait créer une application où, dans laquelle on retrouverait toutes les informations nécessaires autour du coronavirus.
Et je me suis dit, bah, si on arrive à rassembler toutes ces informations, mais uniquement les informations que chaque média juge d'utilité publique dans une appli unique, on créerait un point de passage obligé, ou en tout cas sur lequel on peut communiquer facilement, même au plus haut niveau de l'État, je rêve, hein, je suis fou, pour dire aux gens, télécharge ça, là tu auras tout ce qui concerne l'information en temps réel sur les sujets d'utilité publique sur le coronavirus.
Et donc, ça, c'est quelque chose que dans un billet de blog, vous avez appelé d'une certaine façon la Pressmium Initiative. L'idée de faire une union sacrée pour l'info utile et la lutte contre la désinformation, contre les fake news. Et pour ça, eh bien, vous avez essayé de rassembler des gens autour de vous via un réseau social qui s'appelle Discord, qui est très utilisé par les jeunes, et notamment par les gamers, ceux qui jouent aux jeux en ligne. Et sur ce Discord, eh bien, vous avez réuni plein de profils différents.
Oui, bah, enfin, le Discord existait déjà, mais vivotait dans mon coin. Je remercie ma fille de 16 ans, grande gameuse, qui m'a fait découvrir cet outil. Parce qu'en fait, pour les journalistes et les gens de médias, c'est surtout maintenant où on est tous chez nous derrière un écran, c'est juste génial. On peut discuter comme dans un chat, mais dans un chat où il y aurait différentes thématiques et on pourrait, bah, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, t'enregistrer via cet outil-là, discuter, créer du podcast, créer de l'échange, créer du lien. Enfin, ça me semblait un lieu approprié. Donc, ayant créé ce journal Corne qui me servait beaucoup pour de la veille par thématique jusque-là et ayant réussi à toucher l'un ou l'autre de mes amis journalistes ou gens de médias, je me suis dit, je vais partir de là, je vais lancer les premières pierres là-dedans. Je vais expliquer que j'ai contacté Adrien et Alice de Pressmium, qu'il ne faudrait pas les pousser beaucoup pour qu'ils suivent le projet. Et puis, je me suis demandé bah, s'il n'y avait pas des gens autour de moi qui seraient susceptibles de convaincre leurs médias de rentrer dans le jeu et d'amener les flux. Et bah, on y est presque arrivé jusque-là. On n'a pas encore tout à fait atteint l'objectif des trois, mais on en a déjà deux.
Et alors donc, ce qui est rigolo, c'est que ben, sur ce Discord, sur le Journocord, on trouve des chefs de projet web, des développeurs, des responsables innovation, des journalistes, mais aussi des étudiants journalistes. Et il y en a notamment certains qui se sont vraiment mis à fond sur les questions de désinformation et de fake news.
Ah ouais, non, mais c'est là où il y a un peu de magie, malgré la période et pas la fête. C'est que, ben, ayant expliqué ça, expliqué la démarche, etc., j'étais contacté via le Journocord par Tim Vinchon, je donne son nom parce que comme ça vous le chercherez sur Twitter, mais il s'est dit, ben, moi j'ai des potes avec moi, on est une vingtaine de jeunes journalistes ou d'étudiants en journalisme, on est dans le nord de la France, on a super envie de bosser parce que là pour le moment les piges c'est pas terrible quoi. Et on est prêt à faire du débunkage de fake news. Donc, s'il y a des rédacs qui veulent nous aider ou si tu peux nous aider à nous coordonner, on va arriver à sortir aussi en tweet, en tout ce que tu veux et on pourra se mettre en ordre de bataille. Et il se fait que comme on a des nuits à tuer, parce qu'on est, moi j'ai pas mal d'insomnie en ce moment, je sais pas vous comment vous dormez, mais moi c'est pas terrible. Ben, on a monté un Discord pour eux qui leur permet de communiquer dans une équipe de 20. On leur a mis dans les pattes ben, des contacts. J'ai mis des gens dans ma rédaction à moi, des gens qui sont chez France Info, vous peut-être, demain, Steven, pour leur dire, OK, ils sont jeunes, ils sont un peu foufous, ils ont plein d'énergie, mais ils n'ont pas d'outils pour structurer leur travail et ils n'ont pas encore, je pense, mais c'est très personnel et ils vont m'engueuler quand ils vont entendre ça, ils n'ont pas encore la bouteille nécessaire à savoir traiter rapidement une information. Donc, moi, j'ai fait mon boulot, j'ai connecté des points. C'est ce que je fais le mieux. Et j'ai dit, OK, bah, je connais quelqu'un chez France Info qui peut t'aider. Je connais Guillaume Custer, et là, je le cite aussi, qui pourra t'aider sur la structuration de l'outil. J'ai mis des journalistes avec une certaine bouteille en mentor de leur projet. Donc, chaque fois qu'ils traitent un sujet, il y a un journaliste un peu plus âgé ou avec un peu plus de bouteille qui dit, ah, bah, tiens, ça, tu devrais faire comme ci, ça, c'est peut-être pas bon, c'est peut-être pas le bon angle, il faut que tu creuses ça, etc. Et là, bah, leur projet marche plutôt bien, ils sont en train de se structurer, le nouveau site arrive la semaine prochaine, ils sont en train de monter une vraie structure de rédaction complète, moderne, innovante, avec des outils que j'ai même pas vus dans des rédactions de France aujourd'hui. qui leur permettent d'arriver très vite sur une information, la traiter, la découper et produire derrière des formats texte, web, son, avec des habillages qui n'ont rien à envier à ce que peut faire Brut ou même nos humbles maisons à nous.
Merci beaucoup Denis Verloes. Je rappelle que vous êtes chef de projet multimédia chez TV5 Monde. On espère que cette initiative va pouvoir se poursuivre. Et je rappelle, en parlant de TV5 Monde, qu'il y a 2 semaines, je recevais Yves Bigot, le PDG de TV5 Monde, qui veut lancer en septembre une ambitieuse plateforme de contenu francophone à destination du monde entier. À bientôt, Denis.
À plus tard, Steven, et au plaisir de te croiser dans le journal Cordes, alors.
Je vous le disais en introduction, l'OIF a lancé une plateforme qui s'appelle Solidarité Covid-19 Francophonie. J'ai appelé un des directeurs de l'organisation pour en savoir plus. Bonjour Henri Monceau.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la francophonie économique et numérique. Et je souhaitais d'abord commencer par vous poser une question pour savoir d'où était venue l'idée de cette plateforme Solidarité Covid-19 Francophonie.
Écoutez, quand nous nous sommes trouvés confrontés à cette crise et surtout à l'ampleur que prenait cette crise il y a 3 semaines, et que le confinement a été décidé à Paris, là où se trouve le siège de l'organisation, nous avons tous dû apprendre à réenvisager la réalité, en quelque sorte, à voir comment nous pouvions être utiles. Nous avons pivoté, nous sommes rendus compte rapidement que la plupart des programmes sur lesquels nous travaillons n'auraient pas forcément l'utilité ou l'impact que l'on imaginait, et que par conséquent il était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus opportun de recentrer nos activités, notamment en matière d'entrepreneuriat, parce que l'OIF est actif depuis de nombreuses années sur ce front-là pour donner des possibilités aux entrepreneurs, notamment aux jeunes, aux femmes, dans l'ensemble de l'espace francophone. Et on s'est dit qu'il fallait avant tout offrir un espace de discussion, d'échange. Il fallait faire appel à l'intelligence collective. L'objectif n'est pas seulement d'avoir un espace de discussion, c'est aussi réellement d'identifier de bonnes réponses, de bonnes solutions, et puis ensuite d'aider ces solutions à exister, à passer à l'échelle et à contribuer à la résolution de cette triple crise, crise sanitaire bien sûr, mais aussi économique, on le voit bien, et sociale, je dirais même sociétale. Donc il y a de la matière.
Donc l'OIF qui fête cette année ses 50 ans d'existence de la francophonie, vous pensez de votre côté effectivement qu'il faut saisir cette crise comme étant aussi une opportunité de changer des choses et notamment de s'appuyer sur le numérique, c'est bien cela ?
Absolument, c'est un 50e anniversaire auquel on ne s'attendait pas, bien entendu, mais les secrétaires généraux de l'OIF, Madame Mujibi Wabo bien sûr, mais je pense aussi à Abdou Diouf qui déjà au début des années 2000 voulait et a plaidé avec force pour que l'OIF développe ce pôle numérique et ce pôle économique avec la volonté, la vision selon laquelle l'espace francophone était certes un espace de langue, de culture, de valeur, mais aussi un véritable espace de créativité, de créativité économique et numérique. Et ce qui se passe aujourd'hui le démontre. Nous sommes là pour faire en sorte que les outils qui ont été développés ces derniers temps puissent être mis à la disposition des États membres et puisse renforcer cette impulsion vers une créativité francophone. C'est bien l'enjeu. La connectivité couplée à la solidarité, qui est le thème qui a été proposé par la secrétaire générale pour ce sommet, je crois que l'actualité lui donne raison.
Merci beaucoup Henri Monceau. Je rappelle que vous êtes directeur de la francophonie économique et numérique. Je vous dis à bientôt.
Au revoir, merci.
La plateforme Solidarité Covid-19 Francophonie commence à prendre forme. Et il se trouve qu'à l'Atelier des médias, on connaît bien un de ses concepteurs. Damien Van Acteur est journaliste entrepreneur et médiateur, contraction de média et de hacker. Il m'a expliqué comment ce réseau fonctionne et se structure d'heure en heure. Salut Damien.
Bonjour Steven.
Comment ça va ?
Mais bien, bien confiné forcément, mais ça va.
Alors donc pour les auditeurs, tu te trouves en Belgique, du côté de Namur, c'est bien cela ?
Exact.
Si je t'appelle, c'est parce que tu as mis les mains dans le cambouis pour mettre sur pied une plateforme qui s'intitule Solidarité Covid-19 Francophonie, dont je viens de parler il y a quelques minutes avec Henri Monceau. Et j'aimerais que tu m'expliques très concrètement comment tu as mis sur pied cette plateforme et sur qui tu t'es appuyé.
Mais en fait, c'est comme toutes les jolies petites histoires qui naissent sur Internet un jour quand on se dit comment est-ce qu'on peut être utile. On était au tout début du confinement et avec quelques amis, entre autres journalistes, mais aussi développeurs, designers, on utilise beaucoup forcément les outils à distance et on s'est dit, bah, on va se retrouver chacun coincé chez nous. Comment est-ce qu'on peut essayer de faire avancer un peu le schmilblick en sortant peut-être un peu la tête du flux et en imaginant la vie dedans 2 ou 3 jours plus tard. On avait l'exemple de l'Italie qui, évidemment, nous faisait froid dans le dos. Et donc, tout simplement, on était d'abord 5 et puis 10 et puis 20 et puis 50 à se retrouver sur cette plateforme Slack, qui est une plateforme assez classique hein, dans le monde de l'entreprise connectée, on va dire ça comme ça. Et on a commencé à jouer avec des données, en fait, à aller récupérer les données du site du ministère de la Santé en Belgique qui n'avait pas d'open data, et on a récupéré les data, on les a mises en forme et puis on les a mis en ligne. Et tout ça, c'est des gens qui n'avaient jamais travaillé ensemble, qui n'avaient, si ce n'est en ligne, on a joué un peu les connecteurs. Et d'une manière assez intéressante, quand on a commencé à parler de ça dehors, ben, forcément, il y a des gens qui ont commencé à s'y intéresser aussi. Puis on a été mis en contact avec le IEF, qui a demandé à jeter un œil. Et puis quand ils sont venus regarder, ils se sont dit « mais... » est-ce que finalement on ne pourrait pas aussi étendre ce dispositif-là à l'échelle de la francophonie ?
Et alors combien y a-t-il de personnes inscrites au moment où on parle sur cette plateforme et quels sont les profils ?
Alors à ce stade-ci, on est aux alentours de 450. Alors le chiffre exact, on est 452 très précisément. Plus de 30 pays représentés à travers toute la francophonie. Là, les profils sur la plateforme, pour l'instant, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui viennent du monde de la tech. Ça, c'est quand même un tropisme assez fort. Beaucoup de gens qui viennent d'Afrique. Forcément, parce que là-bas, on sait que le IF est très présente et aussi que le virus n'est sans doute pas encore arrivé. Alors, on espère évidemment qu'il n'arrivera pas avec autant de force que dans le reste du monde, mais ils y sont déjà confrontés aussi. Et donc, forcément, il y a plein d'initiatives, plein de gens qui ont des idées, qui ont envie de pouvoir partager tout ça avec les gens qui sont aux quatre coins de la planète. Et on voit déjà sortir des chouettes choses de cette plateforme. C'est ça qui est bien.
Donc vous êtes en train de documenter des projets. Quelle est l'idée derrière tout ça ? Est-ce qu'il y aura un rendu, une plateforme encore plus ouverte, un site internet peut-être, où on pourra trouver l'ensemble des projets que vous avez documentés ?
Oui, c'est vraiment toute l'ambition de cette plateforme, parce que là, on a des conversations et on sait que les conversations, par nature, sont brouillonnes, ça part dans tous les sens, c'est exacerbé, et forcément, il y a beaucoup de bruit, et c'est très bien comme ça. Nous, on engage d'ailleurs des animateurs pour venir essayer de dégager du signal dans tout ce bruit, et effectivement, la documentation des initiatives prendra la forme d'une sorte de catalogue, qui a déjà d'ailleurs commencé, puisqu'on a déjà une cinquantaine de projets qui ont été documentés. Alors, c'est des petits projets, des grands projets, des projets qui existent déjà, certains qui sont juste à la base une idée, et puis les gens de la plateforme qui sont dessus sont en train de s'en emparer pour essayer d'en faire quelque chose. Mais oui, au terme de la mission que l'EIF nous a demandé de remplir au cours des 10 prochaines semaines, on sortira de manière publique et documentée toutes ces initiatives pour en faire un catalogue accessible au plus grand nombre, non seulement à travers la francophonie, mais sans doute au-delà aussi, pour pouvoir faire face à cette crise sanitaire et économique que tout le monde affronte pour l'instant.
Merci beaucoup Damien Van Acteur.
Merci à toi.
Je rappelle que tu es journaliste, entrepreneur et médiateur. Et pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de rejoindre la plateforme Solidarité Covid-19 Francophonie, eh bien, rendez-vous sur francophonie.org. À bientôt, Damien.
À bientôt.
Avant de se quitter, je vous invite à vous rendre sur mondoblog.org pour lire les nombreux articles postés par les blogueurs francophones de RFI. Il est évidemment beaucoup question de coronavirus et de confinement, que ce soit à Madagascar, Haïti, au Cameroun ou encore au Sénégal. C'est ainsi que s'achève cette émission, enregistrée chez moi à Paris, confiné dans mon appartement avec ma femme et mes enfants. Merci à Simon de Creuse qui était comme chaque semaine à la réalisation, mais cette fois-ci encore depuis chez lui. Je vous informe que nous serons en rediffusion les deux semaines qui viennent à la radio. Je vous invite donc à réécouter nos émissions précédentes et notamment la dernière où le correspondant de RFI à Pékin, Stéphane Lagarde, m'a raconté l'effervescence qu'il a constatée dans les médias chinois au début de l'épidémie de coronavirus en Chine au mois de janvier. Donc n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.